Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Parlons Foot 97.9 FM Fréquencié. Bonne année à tous en cette année 2016. Et puis je dis bonjour à Valentin et Enzo, comme d'habitude, qui sont là pour m'accompagner. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Alors, au sommaire, on va parler bien sûr de la Ligue 1. Il s'est passé pas mal de choses tout de même durant cette trêve. On va parler de l'Angleterre et de l'Espagne, puisqu'il y a eu des Boxing Day, ils ont joué durant la trêve. On va parler de l'actu Mercato, de la Coupe de France. Et bien sûr, des actualités diverses durant ces trois dernières semaines. On va commencer avec la Ligue 1 avec une première question. Quelle deuxième partie de saison pour Lyon et l'OM ?
Elle ne peut être que meilleure que la première. On a vu Lyon qui a entamé son championnat correctement, mais c'était pas du grand Lyon. Et puis, il y a eu cet éclat dans le derby, victoire 3-0 contre Saint-Etienne. C'est leur meilleur match pour moi.
Seul éclat d'ailleurs des Lyonnais.
C'est le seul. Avec Valence en Ligue des Champions, qui est pour moi un très bon match.
Ils ont pas été ridicules en Ligue des Champions. La plupart de leurs matchs, il y a eu des occasions. On va dire il y a eu la malchance. Les balles n'ont jamais voulu rentrer. C'est surtout ça le problème de Lyon en Ligue des Champions cette année.
La réussite, quoi, l'efficacité. Je les attends avec du jeu à Lyonnais, comme ils nous ont proposé l'année dernière.
En tout cas, ils ont mangé Limoges en Coupe de France, victoire 7-0. Darder qui a marqué un but, Gezal qui a fait son retour dans l'effectif, qui marque le plus beau but du match d'ailleurs. On attend Lyon de pied ferme. Mais les Marseillais,
il faut de la régularité absolument.
Pour que Marseille puisse espérer une place européenne, il va falloir qu'ils gagnent à domicile. Ils gagnent à l'extérieur, mais s'ils ne gagnent pas à domicile, ils seront comme là, ils sont cette année.
Et
pour l'instant.
Ils gagnent difficilement à l'extérieur.
Aussi.
On a l'impression que la marche à Marseille, elle commence à se mettre quand même. On les sent mieux sur cette fin de saison, de première partie de saison.
C'est vrai qu'il y a eu du mieux. La mayonnaise a bien pris et le jeu que Mitchell veut faire. En train de prendre forme avec un Cabella en 10.
Alors il y a du changement puisque Lucas Silva a été trouvé inefficace, donc il est retourné au Real de Madrid.
Pas encore.
Ça ne serait tardé.
Lui veut rester après la direction marseillaise.
Je trouve que c'est dommage parce que c'est un joueur, la première saison qu'on l'avait vu avec le Real, il avait un niveau de jeu extraordinaire. C'est dommage que je pense que. Est-ce que c'est un problème de sa part ou est-ce que c'est l'Olympique de Marseille qui ne sait pas l'exploiter? Pourtant, Mitchell, il connaît bien.
Bon, il a pas après commencé titulaire à tous les matchs non plus. Hein. Mais je pense que
ce qu'il est derrière. Il a une place de star à se faire dans cette équipe.
Pour moi, c'est
il a un nom.
C'est un problème d'utilisation parce que c'est un 8 et ils font jouer en 6 avec Diarra. Et un 8 doit faire la construction dans une équipe. Et là, le faire jouer en 6, je sais pas si c'est la meilleure solution.
Et puis Mandanda on parle qu'il est sur le départ.
La Brune dit le contraire.
Voilà, La Brune dit le contraire. Et pourtant, les joueurs, les coéquipiers de Steve Mandanda affirment qu'il serait plus sur le départ que sur la Canebière pour la deuxième partie de saison. Partant pour le Beşiktaş, apparemment. En tout cas,
Rémi Garde le veut aussi, apparemment.
Aussi, oui. Mais je crois qu'il a décliné Aston Villa. Mais en
mais
tout cas,
c'est loin d'être fait avec Beşiktaş. Hein. Je crois qu'il n'était pas du tout intéressé par aller jouer en Turquie à Beşiktaş.
En tout cas, s'il avait à partir, il sera parti sur une belle séance de tirs au but en Coupe de France, car il faut pas oublier que c'est lui qui qualifie l'Olympique de Marseille. Hein. Les Canets ont tout donné et puis ils sont tombés sur un grand Mandanda.
Le penalty n'était pas forcément très bien tiré, mais bon.
Mais bien arrêté aussi
bien
par
arrêté.
Mandanda. Alors l'autre interrogation pour cette saison, c'est 3. Question, on connaît je pense la réponse, mais 3 peut-il se maintenir?
Non.
Non, ça va être compliqué. La première partie de saison, ils ont.
Avec seulement 8 points et 0 victoire.
Aucune victoire, ils ont battu le record d'une équipe qui a aucun match gagné en 19 journées. Le record avant c'était Brest. Et non, mais ils vont gagner peut-être un ou deux matchs là, en phase 2, mais ils iront pas plus loin.
S'ils continuent à proposer du jeu comme ils ont réussi à proposer en première partie de championnat. Et qu'ils ont l'efficacité avec eux, ils peuvent gagner 3, 4 matchs.
C'est pas un manque d'efficacité qu'ils ont 3.
Un manque de buteurs.
Ils ont Corentin Jean, ils ont recruté ils ont en prêt un joueur de la Lazio, je crois aussi.
C'est donc Corentin Jean, ils ont marqué 4 buts ce week-end en Coupe de France.
Oui, et ils ont eu chaud aussi face à Dunkerque. Dunkerque qui aurait même peut-être dû se qualifier. Mais bon, les Troyens ont engendré leur première victoire, toute compétition confondue. Eh ouais, ils ont attendu 2016 pour l'avoir. Donc c'est peut-être un signe vers la victoire pour les Troyens. Mais bon, c'est pas un manque d'efficacité qu'il y a eu moi, pour moi sur cette première partie de saison.
Ils ont pas eu la réussite avec
eux. On a vu rarement des matchs où 3 a dominé. Ou 3 a montré une belle performance.
Non,
on
mais
a vu
3,
Lyon,
quand même, à 3 a eu des occasions.
Ils en ont eu.
Ils auraient mérité des fois de défaites, des matchs nuls.
Il y a eu quelques défaites où qu'ils auraient dû. Qu'ils auraient mérité d'éviter. Mais les prestations que je retiens, les deux prestations que je retiens, c'est contre Lyon, où 3 n'aurait pas mérité pas de perdre. Et contre le Paris Saint-Germain, où ils ont certes pris 4 buts. Mais
4-0 à la mi-temps.
Mais sur les 65 premières minutes de jeu, c'était une performance irréprochable. Maintenant, il y a un nouvel entraîneur, il n'y aura pas de nouveaux joueurs qui vont arriver. 3 est peut-être déjà déboussolé par sa place
en Ligue 1. Je pense qu'il se prépare déjà
à la Ligue 2.
La deuxième partie vaut mieux que ce soit une préparation à la Ligue 2, c'est même sûr.
Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut privilégier des joueurs susceptibles, des joueurs du centre de formation susceptibles d'intégrer l'effectif l'année prochaine en Ligue 2 ça permettrait qu'ils aient une expérience de la Ligue 1 et qu'ils arrivent en Ligue 2 sans prêt, quoi.
Je pense, oui.
Pour permettre aux Troyens, par rapport aux saisons précédentes, où lorsqu'ils sont descendus en Ligue 2, ils n'ont cessé de diminuer de niveau, bah là, ça pourrait même les mettre favoris à la montée en Ligue 1 l'année prochaine.
Je pense qu'il va falloir privilégier le centre de formation qui est l'avenir de Troyes.
En tout cas, financièrement, ils n'ont pas les moyens non plus de s'offrir des Zlatan Ibrahimovic. Alors, on a fait, comme tout le temps, on a fait un simulateur de classement à la mi-saison. Donc, on va commencer avec la Ligue 1. Quel classement vois-tu à la fin de la saison, Valentin ?
Eh ben, Paris champion, mais avec une défaite hein, quand même. Paris va finir avec une défaite. Deuxième, Saint-Etienne, qui va quand même remonter au classement. Troisième, Angers, la surprise quand même de la saison en Ligue des champions. Quatrième, Lille. Cinquième, Rennes. Sixième, Lorient. Septième, Nice. Et puis là, huitième, Marseille. Neuvième, Monaco. Dixième, Lyon. Onzième, Caen. Je pense que Caen va avoir un coup de mou cette année. Douzième, Bordeaux. Treizième, Toulouse. Quatorzième, Guingamp. Quinzième, Montpellier. Seizième, Nantes. Dix-septième, Reims. Et l'année prochaine, il n'y aura aucun club corse en Ligue 1. Bastia, Ajaccio vont être relégués avec 3.
Enzo.
Premier, Paris. Sans défaite. Deuxième Angers, troisième Lille, quatrième Marseille, troisième, cinquième Monaco, sixième Lyon, septième Nantes, huitième Lorient, neuvième Saint-Etienne, dixième Nice, onzième Bastia, douzième Caen, treizième Montpellier, quatorzième Guingamp, quinzième Rennes, seizième Ajaccio, dix-septième Bordeaux, Rennes, Toulouse et Troyes pour les trois dernières places.
Alors pour moi ce serait le Paris Saint-Germain, premier avec 99 points, mais tout de même aussi une défaite. Deuxième Saint-Etienne qui gagnerait 4 places. Troisième Caen qui jouerait donc cette troisième place avec l'Olympique Lyonnais qui est quatrième. Cinquième Monaco. Sixième Nice qui jouerait sa sixième place avec l'Olympique de Marseille et le SCO d'Angers qui aurait perdu donc 5 places au classement s'il finissait huitième. Du fait aussi que c'est une équipe qui a quasiment assuré son maintien, mais qui tombera forcément sur des équipes qui n'étaient pas prêtes en première partie de saison. C'est ce qui fait qu'ils se retrouvent 8e, mais tout de même dans le top 10, donc pour un promu, c'est quand même une bonne performance. Hein. 9e, Rennes, 10e, Lorient, 11e, Lille, 12e, Nantes, 13e, le GFC d'Ajaccio, 14e, Guingamp, 15e, Reims, 16e, Bordeaux, 17e, Toulouse, 18e, Montpellier, 19e, Bastia, et donc dernier 3, mais tout de même avec 4 victoires à la fin de la saison.
Montpellier en Ligue 2.
Bon, alors, dans le simulateur de classement, c'est ce qui arrive. Donc, le maintien se jouera entre Reims, Bordeaux, Toulouse, Montpellier et Bastia. C'est très serré en termes de points.
Après, il faut préciser aussi aux auditeurs, c'est pas forcément ce qu'on pense. C'est le simulateur.
En fonction des résultats que l'on imagine sur l'ensemble de la deuxième partie de saison. La Ligue 2 maintenant.
Le champion de Ligue 2, ça serait Dijon, qui monterait avec Nancy et Metz. Quatrième, Clermont, qui échouerait à 1 point. 5e Le Havre, 6e Tours, 7e Évian, 8e Sochaux, 9e Brest, 10e le Red Star, 11e Laval, 12e Bourg-en-Bresse, 13e Lens, 14e Auxerre, 15e Créteil, 16e Niort. Nîmes arrivera à sauver malgré ses points de pénalité en début de saison. Et puis relégué en national, Ajaccio, Valenciennes et Paris FC.
Pour moi, ce sera Nancy, le Red Star, Bourg-en-Bresse pour la montée. La quatrième place, ce sera Dijon, cinquième Le Havre, sixième Clermont, septième Laval, huitième Évian, neuvième Metz, dixième Brest, onzième Auxerre, douzième Tours, treizième Lens, quatorzième Nîmes, quinzième Paris FC, seizième Valenciennes, dix-septième Sochaux. Et pour la relégation, Niort, Créteil, Ajaccio.
Alors pour moi, ce serait Nancy qui serait premier avec 2 points d'avance donc sur le DFCO. Troisième, ce serait Lens qui jouerait donc sa troisième place avec Metz. Quatrième, cinquième, Auxerre. Et le sixième, Le Havre. Donc toutes ces équipes joueraient une troisième place. Septième, Laval. Huitième, Clermont qui malgré tout se retrouve à la huitième place de mon classement. Mais qui pour moi... Si je me trompe, et j'espère me tromper pour eux, peuvent tout de même finir dans le top 3. 9e Tours, qui a des problèmes financiers en ce moment. Ils sont toujours obligés de régresser. On parle même d'un départ de Alexis Bossetti. Donc, c'est pas bon présage pour les Tourangeaux. 10e Le TG, qui aurait fait une bonne deuxième partie de saison, puisqu'il gagnerait 3 places. Et ils sont sur une bonne dynamique, d'ailleurs, les Savoyards. 11e le Red Star, 12e Brest, 13e Bourg-en-Bresse, 14e Créteil, 15e le Paris FC. Le maintien se jouerait entre Niort, Nîmes, Sochaux et Valenciennes, hein, respectivement dans l'ordre. Et donc le dernier serait Ajaccio. Loin, loin derrière tout le monde. Hein. Et on va terminer avec le National.
Amiens serait champion avec. Et montré avec Orléans et Strasbourg. Quatrième, Luçon. Mais bon, après Luçon, on va avoir une fusion. Cinquième, Boulogne. Sixième, Belfort. Septième, Chambly. Huitième, Sedan. Neuvième, Dunkerque. Dixième, Avranches. Onzième, Marseille-Consolat. Douzième, Les Herbiers. Treizième, Colmar. Quatorzième, Fréjus. Quinzième, Béziers. Seizième, Bastia. Dix-septième, Épinal. Et dernier, Châteauroux.
Premier, Belfort. Deuxième, Marseille-Consolat. Troisième, Strasbourg. Quatrième, Chambly. 5e Luçon, 6e Orléans, 7e Les Herbiers, 8e Avranches, 9e Sedan, 10e Dunkerque, 11e Amiens, 12e Boulogne, 13e Châteauroux, 14e Colmar et la descente Fréjus, 15e Épinal, 16e Le CA Bastia, 17e et Béziers, bon dernier.
Pour moi, ce serait donc Luçon premier, 2e Strasbourg, 3e à égalité de points Dunkerque, Amiens et Belfort, donc qui jouerait cette 3e place, avec Orléans 6e qui n'est qu'à 2 points, 7e Boulogne, 8e Les Herbiers, 9e Chambly, 10e Châteauroux, 11e Marseille-Consolat, 12e Avranches, 13e Épinal qui jouerait le maintien avec le 14e Sedan, le 15e Bastia, le 16e Fréjus, 17e Colmar et le dernier, bon dernier, Béziers. Avec 32 points. Donc voilà. Ce serait une bonne saison, n'empêche, pour Épinal qui fait rien que sur la première partie de saison, qui fait une meilleure saison que l'année dernière. Ils ont déjà plus de victoires que la saison passée avec seulement la moitié des matchs. Donc,
c'est 4 cette année. 4 victoires cette année.
4 victoires alors que l'année dernière, 2. C'est quand même une bonne saison. Un bon bilan, peu importe le classement à la fin. On va passer maintenant. À la Coupe de France, avec quelques surprises, mais pas autant qu'on aurait pu en attendre. Les surprises, elles viennent de Chambly, qui a éclaté tout simplement Reims. Alors là, Reims n'ont rien vu venir.
Je pense pas que ça soit aussi l'objectif de Olivier Guégan, la Coupe de France.
Oui, mais le président avait envie quand même d'une aventure en couple. Il aurait espéré peut-être aller jusqu'en quart ou demi-finale.
Bah, il s'arrête au 32e.
En 32e, donc défaite 4-1 contre Chambly, pour vous dire. C'est Wilfried Luizy Daniel qui a marqué un triplé, l'ancien joueur d'Orléans. Donc ça, c'est une surprise. D'ailleurs, pour se faire pardonner, le président de Reims offre 2 places gratuites aux supporters pour le prochain match de championnat. Toulouse, lui, s'est largement qualifié 5-0. On a vu 3, donc 4-3 après prolongation face à Dunkerque. D'autres matchs encore, Montpellier qui se qualifie difficilement, 1-0. Raoul Étape qui affrontait Saint-Etienne, 1 partout après prolongation, s'incline.
Comportement minable de Stéphane Russier.
Qui s'incline 4-3 donc contre Saint-Etienne au tir au but, alors que pourtant les Stéphanois en avaient raté 2.
Les deux premiers.
Les deux premiers. Et c'est Raoul qui a suivi avec encore une fois la même malédiction. De l'autre côté, Fréjus s'est incliné de peu contre Bordeaux dans le temps additionnel.
C'est surtout que Fréjus a de quoi rager. À 87e minute, ils ont un pénalty qui ne transforme pas. À la 93e minute, Bordeaux se qualifie.
Oui, et en plus, Fréjus avait tout le temps été devant au score face à Bordeaux. D'ailleurs, le but bordelais, c'est Roland, d'une retournée acrobatique. Il a inscrit tout simplement le plus beau but de ses 32e de finale. Lorient, qui a eu chaud, qui s'est qualifié 3-2 quand même après prolongation contre Tours. Wajkal, Paris Saint-Germain, on va en parler juste après justement. Pour les autres résultats, l'Amiens AC a dominé Lille, mais ils sont tombés sur un grand Steve Elana. Saint-Jean-de-Beaulieu, donc c'était le carton. Monaco qui s'impose 10-2. Les autres qualifiés, Marseille, Rennes aussi qui s'est qualifié face à Nice. On a Montmarsan, Saint-Malo, Concarneau, Sarre-Union, Mantes, Sochaux, Niort, Saragenime, qui a réalisé donc une des surprises.
Et Valenciennes.
Voilà, 1-0. Trécillac, Evian qualifié dans le derby face à Annecy. 4 buts à 1 pour Evian dans un stade à guichet fermé. Et qu'il sera sans doute aussi pour les 16e de finale, puisque Evian affrontera l'AS Monaco. L'AC Ajaccio qui se qualifie difficilement. Bourg-en-Bresse, Boulogne-sur-Mer se sont eux aussi qualifiés.
Et Granville.
Granville aussi.
Et Granville qui a éliminé le stade Lavallois. C'est aussi une des surprises de ce tour. Mais c'est vrai qu'on peut être déçu puisque vraiment peu de surprises. On aurait pu être satisfait si Raon s'était qualifié, je pense.
Mais ça montre la solidité des clubs de ligue.
Cette année,
oui. Bah, je pense qu'après aussi, ils font moins tourner leur effectif que les années d'avant aussi.
Peut-être pour
Paris, Saint-Etienne aussi a pas vraiment fait tourner. Ils ont mis Ruffier au but.
Le Paris Saint-Germain a joué avec une équipe remaniée, hein. Mais même avec une équipe remaniée, ils avaient une allure d'équipe type, hein, de toute façon, le Paris Saint-Germain, oui. Puisqu'il y avait 8 titulaires habituels qui n'étaient pas là, qui étaient soit sur le banc, soit mis au repos. Donc justement, ce match Wajkal-Paris, quelle impression ?
Bah, Paris a dominé tout, ils ont fini avec je ne sais pas combien, au moins 70% de possession de balle.
De possession, oui.
Mais ils n'ont gagné qu'un 0.
Et Wajkal aurait pu égaliser...
aurait pu ouvrir le score à deux reprises. Moi, je vois les 20 premières, les 30 premières minutes de jeu. C'est Wajkal qui a. Alors, il n'a pas la possession, mais c'est lui qui a les occasions. Ils auraient mérité d'inscrire ce but.
Mais c'est surtout qu'ils se prennent un but un peu sur une sortie du gardien hasardeuse.
C'est pas il simple. A été irréprochable.
Ah oui, après, il a été irréprochable.
On ne peut pas lui en vouloir. Peut-être que l'erreur, c'est peut-être pas nécessairement celle du gardien, mais du défenseur qui était au deuxième poteau, qui est parti en même temps que le gardien.
Et bon, après,
un petit problème de communication, je pense.
Je pense qu'Ibrahimovic aurait marqué un autre but aussi.
Il est chanceux quand même sur ce but de la tête. Moi, ce que je retiens, c'est la nonchalance des Parisiens, parce qu'ils n'ont pas du tout montré de rythme. Le manque de respect de leur adversaire, puisque durant 10 minutes vers la fin de match, ils ont fait tourner le ballon. Et courir l'adversaire, c'est quand même un club de ligue, donc faut jouer normalement, faut faire honneur à ce club. Et surtout, physiquement, les Parisiens ont été, n'ont pas été respectueux aussi envers Wajkal. Quand on voit les poussettes de Lucas, les claques d'Ibrahimovic, il y en a eu je sais pas combien durant le match, et l'arbitre a dû siffler une seule fois. Donc le Paris Saint-Germain n'a pas eu un comportement digne d'un champion de Ligue 1, je pense, sur ce match de Coupe de France.
On n'a même pas eu le niveau, enfin, on a même pas eu le respect d'un club de Ligue 1.
En tout cas, Wajkal sort la tête haute de cette compétition avec un seul but d'encaisser. C'est une très belle équipe. D'ailleurs, on va parler de Mercato après. Le Butch, leur attaquant, est sorti à la 87e avec les ovations du public. C'était son dernier match à Wajkal. Il jouera à Niort du coup pour cette deuxième partie de saison et retrouvera très certainement lui aussi la Coupe de France du coup avec Niort. Et sinon, Wajkal, après ce match, s'est vu rétrograder en CFA2 par la DNCG dû à des problèmes financiers. Mais peut-être que la dotation du Paris Saint-Germain à hauteur de 100 000 euros pourrait avantager Wajkal et donc leur permettre un maintien en CFA puisqu'ils sont en tête du classement de CFA pour l'instant.
Alors que c'est un promu. Hein.
Alors que c'est un promu, oui. Voilà pour les informations Coupe de France. Maintenant... Alors maintenant on va passer avec l'Allemagne, un mois de trêve en Allemagne, est-ce l'exemple à suivre ?
ça a l'air de leur réussir. Après, c'est un championnat qui est réduit, faut pas l'oublier. Donc, on peut pas jouer même l'hiver. Sinon,
c'est pour ça qu'ils après, ils reprennent plus tard par rapport au championnat pour finir en même temps.
Voilà, la compétition finirait mi-avril. Voilà. Après, on voit que ça leur réussit en Europe. Hein, des équipes comme le Bayern ou Dortmund qui sont actuellement favoris, on va dire, dans leurs compétitions respectives en Europe. Pourquoi pas ? Après.
Après,
j'aime bien un peu le modèle anglais avec le Boxing Day.
Après, c'est pas comme s'ils arrêtaient la compétition. Ils font des matchs amicaux en janvier. C'est pas comme s'ils arrêtaient de jouer.
Alors, justement, tu parles du Boxing Day. Alors, on va parler. J'avais une question sur Arsenal, Aston Villa et Chelsea. Donc, 2016, est-ce l'année d'Arsenal ? Chelsea, c'est le début de la montée, de la remontée. Et Aston Villa, est-ce que c'est mission impossible pour Garde ? Tout de suite le classement, Arsenal est premier avec maintenant de l'avance donc sur Leicester. Aston Villa lui est dernier avec 8 points. Oui. Et Chelsea est 14e, donc il a remonté après sa victoire 3-0 contre Crystal Palace. Vos sentiments ?
Chelsea, début de la remontée, va falloir confirmer ce week-end, mais... Bon, il reste sur 3 matchs sans défaite, hein, après un match nul contre Manchester.
Non, mais ils auraient dû se prendre une volée. Manchester fait des barres, ils dominent tout le match. Chelsea n'a rien montré durant ce match.
Après, Chelsea a eu des occasions aussi.
Une.
Arsenal champion ?
Oui.
Non.
Pour moi, ce sera oui. Même si Leicester, Olivier Giroud disait que Leicester, ça faisait penser au Montpellier de 2012.
Mais Leicester sera pas champion.
Mais Leicester, pour moi, sera deuxième du classement.
Non, cinquième. Cinquième.
Pour moi, sixième. Moi, je les vois terminer deuxième. Ce sera le dauphin d'Arsenal. Manchester City, qui pour moi.
Peut finir derrière Tottenham.
Perd peu à peu de l'élan. Et Tottenham, justement, c'est la surprise, puisqu'ils peuvent accéder encore au titre eux aussi. Et on termine par Aston Villa. Aston Villa, dernier avec 8 points. Depuis l'arrivée de Rémy Garde, il n'y a pas eu de changement.
Si, ils ne perdent plus.
Ils ne gagnent pas toujours. Ils ne gagnent toujours pas.
Le problème, c'est que les points qu'ils récupèrent, c'est des matchs nuls. Depuis l'arrivée de Rémy Garde, c'est 3 matchs nuls de toute façon. Sur les 5.
C'est surtout qu'ils ont quand même perdu le week-end dernier Sunderland.
Bon, ils ont fait un match nul contre City quand même.
Enfin, je préfère. Faire un match nul contre City.
Vaut mieux gagner contre Sunderland et
vaut mieux
perdre City
et gagner Sunderland. Oui.
Oui.
Bon, même si on sait qu'il y a des problèmes de blessures dans l'effectif des Villains. Ouais,
surtout mais... à ma vie, depuis qu'il est blessé, derrière, il a réussi à s'imposer en défense à Aston Villa. Depuis qu'il est plus là, Aston Villa, ça va pas.
Est-ce que Aston Villa peut se sauver ou est-ce que le Mercato peut au moins sauver Aston Villa ?
S'ils font un recrutement intelligent et qu'avec ces recrues-là, la mayonnaise prend. Ils peuvent se sauver en faisant une deuxième partie de saison extraordinaire. Hein, mais
pour qu'ils s'en sortent, il va falloir vraiment qu'ils gagnent tous leurs matchs contre les concurrents directs. Sinon, ils réussiront en championship.
Il y a 9 points d'écart entre eux et Newcastle.
Qui est le
18e. C'est énorme. Après, c'est 3 matchs.
3 matchs.
Mais si Aston Villa ne gagnera pas, ça sera...
Regardez, rappelez-vous de Ajaccio, la première année de leur remontée en Ligue 1, avec Olivier Pantin. Ouais, mais c'est encore la situation d'Ajaccio était encore différente. Hein. Sochaux avait beaucoup plus de points qu'Ajaccio. Ajaccio était dernier. On disait à la mi-saison, bon bah c'est certain, Ajaccio sera en Ligue 2 l'année prochaine. Et ma foi, Ajaccio, il a pas terminé en Ligue 2 l'année prochaine. Hein. L'année d'après, pardon. Il s'est maintenu et en plus avec le même entraîneur du début jusqu'à la fin de saison qui était donc Pantaloni. Le président avait fait confiance à Olivier Pantaloni. Et donc Ajaccio s'était maintenu alors qu'ils avaient tout pour être en Ligue 2. Peut-être qu'Aston Villa réalisera cela. Maintenant, c'est vrai que c'est dommage parce que c'était la première année qu'on voyait Aston Villa intéressant en termes de mercato et même en avoir joué. Et ma foi, c'est l'année où ils sont en difficulté. En Espagne, l'Atlético est premier. Le Barça, pardon, deuxième et le Real troisième. Villarreal, quatrième. Alors, est-ce que Villarreal... c'est le favori pour la quatrième place. Est-ce qu'on peut, pourquoi pas, aller voir monter sur le podium?
Le favori pour la quatrième place, oui, ils ont 5 points d'avance, je crois, sur la cinquième place.
C'est ça.
Pour la troisième place, ça me semble un peu plus compliqué parce qu'il y a eu il va y avoir un électrochoc avec l'arrivée de Zidane au Real.
Enfin, après, si ça prend pas, si Zidane n'y arrive pas, Villarreal devra en profiter. J'espère pour eux.
Et après, en termes de jeu, Villarreal est pour moi l'équipe la plus solide Non. Des prétendants.
On retrouve le Villarreal d'avant. Une équipe qui jouait bien, qui était qualifiée en Europe.
Le problème de cette équipe, c'est qu'aujourd'hui, elle n'a pas le poids qu'elle avait avant face au Barça et au Real. C'est qu'avant, elle avait des joueurs, elle gardait ses joueurs. C'était la grosse cylindrée du championnat espagnol. Aujourd'hui, c'est la bonne équipe du championnat espagnol qui se fait prendre ses bons joueurs chaque année.
Après, il faut dire, c'est qu'il y a 2 ans, ils étaient en deuxième division. Donc, je pense qu'ils vont revenir.
Il y a 3 ans, ils étaient en Ligue des Champions.
Oui. Après, les problèmes. Voilà, mais... ils regagneront contre le Barça et le Real.
Le Barça qui s'est imposé 4-0 en coupe hier contre l'Espagne. 4-1 contre l'Espagnol Barcelone.
Qui en perdent d'élan. Hein. Ils ont enchaîné 2 matchs nuls d'affilée en championnat.
Oui.
C'est pour ça que l'Atlético est premier.
Est premier. La seule chose qui pourrait fausser l'Atlético, c'est les problèmes offensifs. Parce que cette équipe, elle n'arrive pas. Pourtant, elle a
25 buts. Seulement.
Pourtant, elle a d'excellents attaquants.
Elle a Torres, elle a Griezmann.
Elle a Martinez, elle a Vietto, elle a Carrasco. Elle a d'excellents attaquants. Mais elle est en panne, elle n'arrive pas à marquer. Donc, c'est la seule chose qui pourrait fausser l'Atlético de Madrid. La question maintenant, c'est par rapport à Zidane. Zidane, est-ce le bon choix?
Ça me semble un peu tôt. Comparé à son manque d'expérience.
On dira que ça sera le bon choix s'il y arrive, ça sera le mauvais choix s'il n'y arrive pas. C'est tout.
Après, il connaît l'effectif.
Il connaît le club, il connaît tout.
Pour moi, ça ne sera pas un bon choix. J'espère me tromper pour le Real. Mais pour moi, Zidane n'est pas l'entraîneur pour une équipe comme celle-là. Il a grillé des étapes. Pour moi, aujourd'hui, il a grillé.
Il a fallu l'installer dans 1 an et demi.
Je sais pas. Pour moi, il a grillé des étapes. Il a entraîné le Real B en 3e division. Il aurait peut-être pu passer par une équipe de France, espoir ou une équipe jeune.
Faut pas oublier qu'il a été l'adjoint d'Ancelotti.
Oui, mais bon, regarde Makelele. Makelele, c'était l'entraîneur, c'était l'adjoint d'Ancelotti et de Laurent Blanc. Et Makelele, il a rien fait à Bastia. Bon, tu me diras, c'est pas la même équipe, mais ça joue quand même.
Enfin, pour moi, je pense que Pérez, il a fait un bon choix pour le Real, peut-être, mais surtout pour lui. C'est ce que les supporters voulaient. Lui, il se faisait critiquer par les supporters. En menant Zidane, sa popularité va avoir monté à Pérez.
Pour les prochaines élections du club.
Oui, donc je pense que c'est pour ça. Lui, il a mis Zidane, et puis il a viré Benitez parce que les supporters en voulaient pas.
En tout cas, affaire à suivre jusqu'à la fin de saison pour voir le bilan de Zinedine Zidane. Qui sera champion en Serie A, puisqu'on sait que c'est très serré.
Bah, la Fio fait une bonne saison.
Et la Juve est bien remontée, donc attention à la Juve.
C'est le problème. C'est déprimant.
Juve a même dépassé la Roma.
Mais la Roma est cinquième.
Ça n'empêche que je vois la Roma terminer premier, moi, à la fin de la saison.
La Roma ne montre pas un jeu très flamboyant. Pour moi, ça se jouera entre l'Inter, la Fiorentina et la Juventus.
Ouais. L'Inter, oui, l'Inter, la Juve et la Fio pour moi.
Donc ça nous annonce une belle partie, une deuxième partie de saison.
Du suspense
avec,
dans chaque championnat.
Dans chaque championnat avec la reprise de la Ligue des Champions. On revient pour cette troisième partie d'émission avec la question, on va parler mercato. Et avant tout, le mercato d'hiver doit-il être supprimé?
Non, parce que ça permet des équipes de se renforcer.
Enfin, si ça. Oui, oui. Non, oui. Mais bon, après, quand
ça fausse les championnats.
Oui, mais enfin, quand on voit qu'il y a des joueurs qui arrivent en été dans un club, puis en hiver partent dans un autre club, c'est vraiment. Vraiment, soit ils n'ont pas fait le bon choix, soit les clubs qui les ont pris en été n'en ont rien à foutre.
Qu'est-ce qu'il faudrait? Est-ce que le mercato d'hiver doit rester sur ce principe ou. Il doit plus aller vers un mercato par rapport aux blessures pour faire venir des jokers médicaux. Voilà, il y a tant de blessés, donc on peut faire venir tant de joueurs.
Un peu comme au rugby.
Et limiter le nombre de transferts par équipe à 2.
Je sais pas si limiter le nombre de transferts c'est bien, mais
ça évite tout de même de fausser.
Ça peut tuer une saison. Hein,
parce que ça change tout, oui.
Ça peut casser une saison bien démarrée et la très mal terminée.
L'idée du joker médical est intéressante, mais après, au niveau de la limite de transfert, je sais pas si bien. Regarde, on prend l'exemple.
C'est une proposition qui avait été faite.
Aston Villa va recruter a priori cet hiver. Je sais pas s'ils ont besoin que de de recrues. Je pense qu'il après, faut
non, mais cet 4, c'est recrues. Pour c'est pour éviter de fausser les championnats justement.
Cet été, ils ont recruté 4-5 recrues et ils ont pas réussi.
Ça n'empêche qu'ils ont aussi.
Eu, c'est Ayou. Ayou est réussi, à ma vie.
C'est réussi. Avait réussi malgré sa blessure.
Veretout,
il joue pas trop,
mais c'est dommage parce qu'il a un potentiel à exploiter. Mais bon, avec Garde, ça va peut-être venir.
Enfin, après, ils ont pris, oui, possible.
Mais c'est vrai que pas de mercato d'hiver pour les gros clubs de chaque championnat, c'est une chance en plus pour les autres équipes.
Ça fout ce championnat.
Parce que faire venir des gros joueurs dans les grosses équipes, bah, ça ne fait que les renforcer. Et bah, finalement, sur une saison entière, ça ne reflète pas le niveau de l'équipe.
Oui.
Ça leur reflète que sur 6 mois.
Voilà. Simple question. Voilà. Alors, on va passer avec les informations Mercato avec Enzo.
Donc, Sadio Mané veut quitter Southampton. La Juventus pense à Ander Herrera. Et Issiar Diack quitte le Gazélec d'Ajaccio. Il a rompu son contrat. Amalfitano à Lille, ça brûle. Il ne joue plus à Aston Villa.
Il a résilié son contrat
à West Ham.
La Fiorentina veut rapatrier Graziano Pelle, le buteur de Southampton. Mendy et Batshuayi prolongent à Marseille. Aston Villa s'attaque à Claudio Bovu, qui va peut-être prendre du temps de jeu avec l'arrivée de Bruno Genesio. Oui. Mario Suarez, l'ancien de l'Atlético, est pisté par l'OM. Actuellement, il joue à la Fiorentina. Un trio lorgne sur Jamie Vardy, donc notamment Manchester City, Chelsea et Manchester United.
Vardy qui restera vraisemblablement à Leicester quand même.
Kevin Grosskreutz qui retrouve la Bundesliga. Il était à Galatasaray, il revient à Stuttgart. Milan Bicevac a signé à la Lazio
de Rome. Il faut bien qu'ils essayent de sauver du maintien. Hein.
Oui, mais enfin, quand on voit le parcours de café des clubs Grosskreutz.
Bah, il est à Dortmund.
Bah oui, il se retrouve à Stuttgart.
On passe. Bah, remarque, l'année dernière, quand il jouait à Dortmund, il était aussi à cette place-là.
Aussi. C'est vrai.
Ça va pas y changer.
Bastia à la recherche d'un nouvel attaquant, donc qui piste John Utaka et Melvoet Harding, qui est lui pisté par Guingamp.
Il y a des chances qu'il revienne en Ligue 1, Melvoet Harding, hein, en manque de temps de jeu à Hanovre, et d'ailleurs en froid avec le président, qui avait parié sur une grosse saison de l'attaquant et qui est déçu de cette première partie de saison.
Peut-être qu'il le fera jouer, parce qu'Hanovre sera quand même relégable en Bundesliga.
En tout cas, c'est pas l'intention des dirigeants.
Yanouzaï revient à Manchester United, en manque de temps de jeu à Dortmund en prêt.
C'est dommage, c'est un joueur pas mauvais.
Moisa Sen, le gardien de Nice, est sur les tablettes de Fenerbahçe. Un peu étonnant pour le niveau du goal.
Oui, bon, à Nice, ils essayent tout. Hein. Ils ont tous les goals ont du temps de jeu à Nice. Hein. Vous regardez Cardinal.
Parce qu'ils font que de se blesser aussi.
Cardinal, sans vouloir l'offenser, c'est le nain de jardin de la Ligue 1. Et puis bon, bah, Moisa Sen, lui, il a les mains trouées. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Pouplin, c'est le gars qui est blessé toute la saison. Dommage, parce qu'il avait fait une bonne saison avec Sochaux. Mais bon, il avait été remplacé par Pelé tout de même. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Dell qui n'a pas été exploité. On a fait jouer les gardiens de 15 et 16 ans du côté de Nice, parce qu'on n'avait plus la main-d'œuvre nécessaire.
Un peu Toulouse, quoi.
Voilà.
Le Barça a décidé pour Ter Stegen. Donc Ter Stegen... le Barça laissera filer son portier international allemand, a priori à Liverpool. Jürgen Klopp est intéressé par lui.
C'est important parce que Liverpool est mignolé, c'est pas encore ça, donc Ter Stegen, ça peut apporter quelque chose.
Arnautovic refuse de prolonger à Stoke City, il est pisté notamment par le Paris Saint-Germain.
C'est dommage, parce que c'est quand même lui qui est en train de porter Stoke cette année.
Alors que pourtant à Stoke, il y a quand même Shaqiri, il y a quand même Afelai.
À E3, ils forment un très bon trio.
Boyan aussi, qui est derrière.
Non, ils ont une bonne équipe cette année.
Le Barça veut toujours Nolito. Nolito, qu'on le rappelle, a été formé à la Masia.
Vigo ne voudra pas le laisser partir. Hein. Je pense que c'est pas dans les projets.
Le Paris Saint-Germain veut se lancer sur Eden Hazard, qui est pisté lui par le Real Madrid.
Il n'est pas dans les plans de l'entraîneur, apparemment.
Et Falcao revient à Monaco après un passage raté.
Donc c'est certain.
Ça devrait se faire dans les...
Ça peut être intéressant pour les Monégasques. Hein. D'ailleurs, avec d'autres informations, Yatara qui a re-signé à Angers après deux saisons. Il y a deux saisons, il avait marqué 11...
Ouais, une dizaine de buts.
11 buts, je crois. Donc, il revient à Angers pour 2 millions d'euros. Hein. L'expérience en Belgique n'a pas fonctionné. Et changement de gardien, Butel signe à Bruges. Bon, beaucoup disent que c'est par rapport à l'argent, mais je pense que Butel a la chance de sa vie. Il a joué à Valence, il n'a pas eu de chance. Il s'est gravement blessé. C'est un miraculé puisqu'il est très vite revenu dans le football, alors que beaucoup n'auraient pas réussi. Et puis aujourd'hui, bon, bah, c'est la dernière expérience. Donc un club aux allures européennes, forcément que ça ne se refuse pas.
Encore en Europe,
pas.
Non ?
Non, mais bon, il pourrait jouer. Il a signé Europa League peut-être.
Non,
lui.
Peut-être ouais, hein.
Mais en tout cas, il a signé pour 3 ans. Donc sur les 3 prochaines années, il aurait une chance de jouer en Europe. Et il est remplacé par Denis Petric en manque de temps de jeu à 3, puisque c'est Bernardoni, le jeune gardien formé, qui est très bon d'ailleurs, qui prend la place de Petric. On a encore un autre transfert en Ligue 1.
Söderlund, l'attaquant de Rosenborg.
Qui signe à Saint-Etienne. Voilà. Il y a encore une autre. Lacazette qui est pisté par Newcastle pour 25 millions d'euros.
Bah, apparemment, non.
Apparemment, Olas a refusé
ne veut pas.
Et Lacazette aussi. Donc...
Voilà, mais ça peut être à voir hein, vu les performances de Lacazette. Olas pourrait être tenté de le vendre vu le salaire qu'il lui coûte, et puis Lacazette à Newcastle pourrait être le grand sauveur et le grand buteur. Donc le mercato, c'est quand même un.
Ouais, enfin, il y a des joueurs intéressants devant à Newcastle. Il y a Papi Cissé, il y a Mitrovic, il y a José Pérez, il y a De Jong.
Mais bon,
je sais pas si Lacazette arriverait à détrôner ces 4 là.
Pour l'instant, là, ils sont 18e de première ligue. Quand même.
J'avais une petite question. Il y a un gardien qu'on a transféré en Belgique il y a quelques années. C'était le gardien de Troyes.
Thuramulien.
Que devient Thuramulien ?
Mais c'est ce que je me posais une fois, mais pas de
nouvelles. Très bon gardien.
Très bon gardien, et on en entend plus
ça
parler.
En Belgique ?
Au Standard de Liège.
C'est étonnant d'ailleurs que le club de Ligue 1 ne pense pas à lui.
Voilà, Toulouse,
bon,
ça peut
3.
Être intéressant.
Toulouse, voilà, qui recrute Goycocha.
Bah, Goycocha qui est le double d'Amada. Amada qui d'ailleurs n'est plus à Toulouse hein, puisque le contrat a été résilié. Donc normalement, il ne fait plus partie du TFC.
Il y avait aussi un autre gardien, Ochoa, qui était potentiel de revenir en Ligue 1.
Oui, et
mais des clubs
ont refusé. Ils ont refusé.
Reims avait refusé.
Il y avait Toulouse qui a refusé.
C'est étonnant d'ailleurs.
Pourtant Toulouse
et dire qu'ils savaient, en tout cas c'est leur jeune gardien de 16 ans qui est titulaire et qui fait mieux que tout le derrière.
Que Amada hein. Qui part Amada.
Amada oui, donc normalement qui n'est plus toulousain hein. Il aurait signé en Turquie. Ça reflète peut-être son niveau.
Il va aller faire des malheurs là-bas.
Peut-être un nouvel élan dans sa carrière.
Voilà. Maintenant, on va terminer sur du local. Hein. Le Mans FC qui a recruté un attaquant, un bon attaquant, que d'ailleurs Richard Désiré, l'entraîneur, connaît très bien, puisqu'il l'a déjà coaché. C'est Vincent Créhin, l'ex-attaquant d'Avranches, ex-buteur, passé par Laval. Donc il a 5 matchs de Ligue 2 à son instinct. Et puis il a été transféré à Amiens cet été en manque de temps de jeu, donc il rejoint Richard Désiré pour travailler sur le long terme, a-t-il dit, et apporter tout ce qu'il peut au Mans FC. Le Mans FC, ça va pas très bien en ce moment puisque il y a des problèmes depuis déjà plusieurs semaines. On vous en parlait avant les fêtes de fin d'année. Les filles sont en guerre contre le président. Puisque Charbonnier, l'entraîneur, s'est fait donc licencier pour faute grave, soi-disant qu'il aurait constitué un groupe d'anti-conseil d'administration, ce que lui, bien sûr, a démenti. Il a dit que si les filles n'avaient pas le survêtement gratuit, contrairement aux garçons, ce n'était pas lui. Si le président allait voir les garçons le week-end, qu'il n'a pas été les voir une seule fois... les féminines, c'est que c'était pas de sa faute non plus. D'ailleurs, il avait même dit pour les survêtements que si elles en voulaient, elles avaient qu'à se le payer. Et il y a diverses choses encore. Il y a aussi le cas Mimouche qui est arrivé cet été, qui a été écarté du groupe. Charbonnier a répondu puisqu'il a dit que c'était une joueuse qui n'avait pas une bonne influence sur le groupe. Et d'ailleurs, c'est ses coéquipières elles-mêmes qui ne voulaient plus d'elle. Elle devait avoir un comportement, je pense, déplacé envers ses coéquipières, je n'en sais rien. En tout cas, elle a réintégré le groupe-là avec Claire Germain. Claire Germain, la nouvelle coach, qui fait elle aussi débat, puisqu'elle était joueuse du Mans FC il y a 2 ans. Elle est partie donc en fin de saison dernière, parce que elle ne voulait plus de Charbonnier. Et justement, c'est quand même un coup de couteau dans le dos, je pense, pour l'équipe féminine du Mans. D'ailleurs, il y a une réunion avant-hier. Et Jean-Pierre Pasquier a dit que les filles qui viendraient s'entraîner, donc continueraient à faire partie de l'équipe, les filles qui ne viendraient pas à l'entraînement s'excluraient elles-mêmes. Je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup de filles à avoir été à l'entraînement. Donc Le Mans risque de se retrouver avec une équipe très affaiblie.
C'est dommage parce que c'était une très bonne équipe
On oublie
féminine.
quand même que sur les 12 équipes qui participent au championnat, cette année, 6 seront reléguées. Le Mans est 5e sur 12. Et pourrait donc se faire reléguer en troisième division.
Surtout qu'il y a 2-3 ans, elles étaient deuxièmes à quelques points de la montée en première division féminine.
Donc affaire à suivre dans les prochaines semaines où on essaiera notamment, pourquoi pas, d'avoir Jean-Pierre Pasquier s'il accepte de s'exprimer. Là on se doute qu'il doit avoir déjà pas mal de demandes. Donc voilà, et puis on va vous souhaiter donc une bonne journée. Puis la reprise, pour ceux qui se demandent, la reprise des équipes de district. Le championnat reprendra donc le week-end du 31 janvier pour Sillé et Teny donc en D1, pour Conly, Cure en D,
Héroux-Sévacé.
Hervoissé en D2, La Quinte aussi, La Quinte qui a changé d'entraîneur ainsi que Conly. Et puis, et Beaumont aussi. En DRH, voilà. Donc bon nombre d'équipes qui vont reprendre, pourquoi pas, pour viser la montée en fin de
Ils sont
saison.
bien partis pour certaines équipes.
Voilà. Et la coupe du district, c'est donc le week-end prochain, non, le week-end du 24 janvier, avec un choc, celui entre Conly, équipe de deuxième division, coachée donc par Mathieu Guillardeau, ex-entraîneur de Teny et de Guesselard, qui affrontera donc l'US Teny, équipe de première division. Monsieur Guillardeau retrouvera ses anciens joueurs dans un match qui s'annonce déjà chaud sur le terrain et dans les tribunes. Donc ne ratez pas ce match. Sillé lui affrontera la petite équipe de Pont-Aveline. Gare aussi aux petites équipes. Hein, on l'a vu Sillé qui avait créé la surprise en Coupe de France.
Ils sont capables de tout.
Pont-Valin, pardon, oui. Qui pourrait donc lui aussi se faire piéger. Donc voilà pour les informations et Le Mans FC reprend le week-end prochain en championnat par Châteauroux. Je vous souhaite donc une bonne journée. Vous étiez dans Parlons Foot 97.9 FM Fréquencier. Au revoir et à la semaine prochaine.
Au revoir.
Au revoir.